إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلي وسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, un sujet qui était très, qui est très important, parce qu'on a parlé un peu de la compréhension et tout, et quand on est musulman, on a un élément qui intervient dans la compréhension, en fait, qui fait partie de la compréhension, mais sans vraiment faire partie, c'est la fatwa. Le principe de la fatwa, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la fatwa et comment il faut l'appliquer et tout ça. Parce que en ce moment, on connaissait bien l'environnement ici en France, on entend tout et n'importe quoi. Je veux dire, n'importe qui peut se permettre de parler de n'importe quoi sans vraiment comprendre. Alors, le mot fatwa en arabe, c'est une réponse. C'est une réponse à une question.
Non,
pas du tout. Justement, pas du tout. Il n'y a rien à. C'est une fatwa, c'est la réponse à une question qui a été posée. Et on retrouve le terme dans le Coran. Et Yastaftouna Karim essaye de poser des questions à propos des femmes, dit qu'elles ont le droit à l'héritage et tout ça. Donc la fatwa est tout simplement une question. Alors elle peut être d'ordre juridique, mais elle peut être tout à fait d'ordre général, qui n'a rien à voir avec la religion ou avec la loi. Si, par exemple, je peux poser une question à quelqu'un, par exemple, de savoir comment élever mes enfants. Et il peut émettre sa réponse, on peut la considérer comme une fatwa. C'est-à-dire une réponse à la question comment je vais élever mes enfants, ou alors comment je vais soigner, par exemple, le fait que mon fils ment, ou ma fille monte, ou ceci, cela. Donc, ça n'a pas forcément une connotation religieuse. C'est vrai que le mot fatwa est souvent utilisé dans la religion, mais parce que le mot a été dénaturé, plutôt que. Et puis surtout, on vient souvent poser la. La meilleure manière de dénigrer les choses, c'est d'utiliser un terme qui fourre-tout. Et surtout qui n'est pas compréhensible, qu'on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Donc si on utilise un terme fourre-tout, on peut très facilement dénigrer ce qu'on veut expliquer. Maintenant, aujourd'hui, si vous dites aux gens, par exemple, imaginez que, par exemple, là, il y a une fatwa qui vient de sortir par les savants, dans l'obligation des musulmans d'aider les habitants d'Haïti. Donc ils ont émis une fatwa en disant tous les musulmans doivent participer à Haïti, parce que c'est une population complètement démunie et complètement à l'abandon. Et c'est un des rôles du musulman, c'est une fatwa. Alors, mais si on utilise le mot fatwa dans le langage de tous les jours, on a l'impression que ça va être un jugement, un truc, et que c'est forcément négatif. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être négatif. Donc le mot fatwa, ça veut dire répondre à une question bien donnée. Donc vous avez, si vous voulez, vous avez trois éléments dans la fatwa. Celui qui pose la question, enfin quatre éléments. Celui qui pose la question, celui qui répond à la question et la réponse. Donc ça, c'est les quatre éléments qui composent une fatwa. Alors, les fatwas peuvent porter sur quoi ? Ben, on va se contenter des fatwas concernant la religion et la foi. Elles sont de deux grands ordres. Je dirais celles qui sont générales et celles qui sont spécifiques. Alors, les générales, c'est tout ce qui, en arabe, on dit « al-ma'ruf al-din bil-zaroura », celui qui doit être forcément connu pour pratiquer la religion. On peut pas imaginer que quelqu'un soit musulman et ne sache pas qu'il faut qu'il jeûne le mois de Ramadan, ou qu'il faut pas qu'il fasse la prière, ou qu'il fait la prière sans les ablutions. Il y a des choses de base dans l'islam, il faut absolument les connaître, on peut pas être musulman en dehors de ça. Je vous rappelle encore une fois que on ne naît pas musulman, on le devient. Et on le devient à un moment bien précis, c'est à la seconde où on passe de l'âge d'enfant à l'âge d'adolescence. C'est-à-dire quand on a la puberté, les signes extérieurs du fait du passage de l'enfance à l'adolescence. C'est à ce moment-là qu'on devient musulman. C'est-à-dire que, imaginez que quelqu'un, un enfant, un garçon, il a 13 ans, il, à 10h du matin, il est devenu un homme. À 13h du matin. À 13h, il est devenu un homme. S'il meurt entre à 17h, il sera condamné pour ne pas avoir fait la prière de l'après-midi. Dieu va lui dire, tu es devenu musulman, enfin, tu avais l'obligation de devenir musulman à ce moment-là. Donc la prière d'avant, les savants ils ne sont pas d'accord, ils disent, puisque l'heure de l'appel à la prière n'était pas musulman, il n'a pas à la faire. L'autre, ils disent, s'il a suffisamment de temps, il doit la faire. Mais bon, on va rester sur le principe que celle sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est celle de l'après-midi. S'il meurt après cette prière-là, sans la faire, Dieu va lui dire, tu n'as pas accompli la prière. Alors que s'il meurt juste à 12h59, il ne sera pas jugé par Dieu. Il ne sera absolument pas jugé, parce qu'il n'a pas la responsabilité. Vous comprenez ? Donc c'est très très important. Il y a une chose que la plupart des musulmans ne comprennent pas, c'est qu'à un moment de notre vie, de vie d'enfant, on va passer d'un état à un autre, et cet état, il doit être marqué. On doit aller dans la salle de bain, on doit se prendre un bain, on doit prononcer la shahad et on doit commencer à faire la prière. Il faut absolument marquer ce point-là à un moment bien donné pour être un vrai musulman. On ne peut pas devenir... Parce que le principe de l'islam, c'est que les enfants, n'étant pas responsables, ils ne seront pas jugés. Et donc aussi bien les enfants des musulmans que les enfants des non-musulmans. Donc, si vous voulez, il y a une partie donc, qui est nécessaire à la pratique et qui doit être forcément connue. Donc là, on a des différences. On dit on n'a pas besoin de connaître quelque... Cet enfant n'a pas besoin de savoir comment faire les ablutions avant de les faire. Parce qu'elles ne sont pas obligatoires pour lui avant. Donc c'est au moment où il doit faire les ablutions qu'il doit les connaître. Donc, mais bon, les autres, ils disent, oui, il faut quand même qu'il l'apprenne un peu avant pour éviter de perdre de temps. Mais bon, la plupart disent il n'a pas absolument pas l'obligation. Mais quand ça y est, on doit faire quelque chose, on doit à ce moment-là apprendre. Donc tout ce qui doit être connu pour pratiquer la religion, ça fait partie des généralités. C'est-à-dire qu'on peut... Ça serait un peu, je dirais, extravagant qu'on aille poser à un savant, est-ce que la prière est obligatoire dans l'islam ? Et si vous répondez non, on dit, ah voilà, j'ai une fatwa, le savant il a dit, j'ai pas à faire la prière, donc je ne suis pas obligé. Non. Non, il y a des choses qui sont claires, nettes et précises, et qui forment ce qu'on appelle la pratique. On ne va pas dire, non, ce n'est pas parce que j'ai un savant qui m'a dit. Donc, alors, cet élément-là, en fait, n'importe quel musulman peut répondre à cette question-là. C'est-à-dire que si quelqu'un vous pose, est-ce que la prière est obligatoire, vous pouvez répondre. Et c'est une fatwa. En fait, vous avez répondu à une réponse juridique. Vous dites, est-ce que la prière est obligatoire ? Dites, oui, la prière est obligatoire. Est-ce que le ramadan est obligatoire ? Oui, il est obligatoire. Donc vous répondez. Parce que c'est censé être connu par tous les pratiquants. Donc il n'y a pas. On peut parfaitement répondre à ces questions-là. Et la deuxième des éléments, c'est les trucs particuliers. C'est-à-dire que vous connaissez la globalité, mais dans le détail, on ne vous demande pas. Si vous n'avez pas la capacité, ou ce n'est pas votre domaine, de connaître les particularismes, ou surtout de savoir quoi faire à un moment bien précis sur une erreur bien précise. Là, on ne va pas demander aux gens, parce que sinon ça demanderait une science tellement grande que ce n'est pas possible au commun des mortels d'y répondre. Et en plus, ça demande une science énorme, ce qu'on verra après. Donc, ces éléments-là sont les éléments qui doivent être réservés à des spécialistes, à ce qu'on appelle des gens de savoir, des savants, qui peuvent répondre à ça. Donc, la personne qui répond à ça, c'est pas un imam, c'est pas quelqu'un qui a étudié un peu l'islam et tout, on appelle ça un mufti, c'est-à-dire celui qui émet des fatwas. Alors c'est quoi le mufti ? C'est quelqu'un qui est capable de répondre. Alors, pour être capable de répondre, il y a quatre éléments, je réunis ça en quatre éléments importants, mais il y en a beaucoup plus. En fait, chaque élément va se composer en plusieurs éléments qui sont distincts. La première chose, il doit avoir une connaissance totale et approfondie, mais alors approfondie, quand je dis approfondie, c'est dans les micro-détails, hein, pas dans le détail, dans les micro-détails, du Coran, de la sunna, ça, la conduite du, paro, du prophète, de ses paroles et du jugement, de ça, tous les avis juridiques antérieurs qui ont été émis sur cette question-là, et l'ijmer, c'est-à-dire le consensus de la nation sur certains points. S'il ne maîtrise pas ces éléments-là, il ne peut pas être un mufti. Il ne peut pas. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes en train de parler de la loi de Dieu, pas de votre avis personnel. Les gens croient que c'est l'avis du Seigneur. Non, c'est la parole de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Donc ça nécessite une connaissance très approfondie des choses. Dans ce qui est, je dirais, commun, c'est-à-dire les questions, vous savez, il y a des questions qui reviennent
tous les jours,
à tous les moments, sur la prière, j'ai oublié un raka. Ça, c'est connu de tout le monde. On pouvait les retrouver regroupés dans des livres et tout. Ça, je dirais, à la limite, c'est dans la vie de tous les jours. Par exemple, une des choses, je dirais, toute simple, on peut imaginer, par exemple, concernant la prière, que quelqu'un, au cours de la prière, ne sait plus à quel moment, quelle unité de prière il est en train de faire. Est-ce qu'il sait plus s'il est dans la première ou dans la deuxième ? Parce que comme la deuxième va être, il faut s'asseoir pour réciter la profession de foi, tashahhud. Donc, il ne peut pas se lever. Il est obligé de savoir est-ce qu'il est dans la première ou dans la deuxième. Donc, il a un doute. Il est évident que les gens qui font la prière, honnêtement, je ne connais personne qui n'est pas arrivé un jour, qui se retrouvait dans ce cas-là. Il est évident, ça rentre quasiment à la limite de la connaissance. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire ? On peut imaginer plusieurs. La personne peut trouver une réponse personnelle. On peut, par exemple, la personne arrête la prière et recommence de nouveau. C'est pas la bonne truc. Mais il aura sa prière qui fera la seconde, sera acceptée. Mais c'est pas la vraie conduite. Donc il a besoin de rentrer un peu profond. Donc la connaissance du Coran. Le Coran, c'est le premier livre de la sunna qui est l'explication du Coran et je dirais le manuel pratique du musulman pour comprendre sa foi et comment la pratiquer. Le consensus, l'ijma, et les avis antérieurs. Pourquoi les avis antérieurs ? Parce que une fatwa, c'est pas oui ou non. Est-ce que je peux ou je peux pas ? Si la personne répond par oui ou non, il n'est pas savant. Il doit donner l'argumentaire qui appuie le oui ou le non. Donc en règle générale, quand vous lisez une fatwa qui est émise, vous avez la question. Vous avez un développement, Dieu a dit, le prophète a dit, le compagnon un tel a fait, le truc, tel savant a dit, le truc, et en conclusion, voilà la réponse. Donc s'il n'y a pas ça, son avis n'est pas appuyé juridiquement sur le Coran, la sunna, les jumeaux et tout ça. Donc on ne tient pas compte. Bon, c'est vrai qu'à certains moments, surtout sur les sites internet, je vois. On se contente d'expliquer, de donner la fatwa générale parce que le développement avant n'est peut-être pas forcément compréhensible pour tout le monde. Mais normalement, il doit être appuyé avec le Coran, la sunna, la tradition du prophète, la tradition des compagnons, les jumeaux, le consensus, l'avis des savants et tout ça pour arriver à une question générale. Donc ça, c'est le premier élément. En fait, il faut que la personne soit quelqu'un de la science. Il faut qu'il ait une science très profonde. Pour vous donner un exemple, Imam Ahmed ibn Hanbal, donc un des plus grands imams musulmans qui a formé le hanbalisme, la quatrième école, avait appris le Coran à 7 ans. À peu près à 18-20 ans, on dit de lui qu'il connaissait à peu près 1 million de hadiths, avec toute la chaîne de transmission et les personnes qui composent les chaînes de transmission. Vous pouvez imaginer le savoir qu'il peut. Eh bien, malgré ça, il n'a jamais émis de fatwa avant ses 40 ans. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, la jeunesse, avant 40 ans, parce que le prophète a reçu la révélation à 40 ans, on peut s'égarer. Il faut attendre que les choses se tassent, se stagnent, se mûrissent à l'intérieur de l'individu pour qu'il réponde et réfléchisse avec raison. Pas qu'il les mette, je vois par exemple, ça me fait toujours très, très rire, mais c'est désolant, souvent dans les chaînes hertziennes arabes, on voit les savants, ils répondent à la question, l'autre il n'a même pas encore terminé de poser sa question, il dit non, tu peux pas. Il n'a pas encore terminé de poser sa question que déjà l'autre veut répondre. Donc, ça demande de mûrir. Les vrais savants, même sur des questions très simples, hein, l'imam Malik, c'est Shafi'i, donc un autre grand imam qui témoigne de celui dont il a été l'élève, il dit, on lui a posé 40 questions en ma présence, il n'en a répondu qu'à 8. Et les 32 autres, il a dit, je ne sais pas. Donc, et lui avait une manière très importante de dire, il dit, je ne sais pas, et déjà une réponse. Et ça, je crois que la plupart des gens devraient mûrir ça. Je ne sais pas, et déjà une réponse à une question qu'on vous pose. Si je ne maîtrise pas ce qu'on me dit, le fait de dire je ne sais pas, ça ne me dégrade pas. Ça ne baisse pas de mon niveau. Ça me situe tout simplement mon savoir, où j'ai besoin de réflexion, où j'ai besoin de retourner. Donc c'est très important de ça, parce qu'il porte la responsabilité de ce qu'il va dire. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ça ne suffit pas en fait. La deuxième chose importante, il faut qu'il ait une capacité de déduction. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il rejoigne les textes les uns avec les autres. Il faut qu'il sache tirer des textes une conclusion. Il faut qu'il sache ce que les textes veulent dire. Et quel est le but de quel est le rapport entre la question et comment chercher la réponse dans la sunna. Vous savez, c'est pas un manuel 2 plus 3 ça fait combien? Donc j'ouvre un bouquin de mathématiques, 2 plus 3 ça fait 5. La question, est-ce que la couleur bleue, pour vous donner un peu un exemple, est-ce que la couleur bleue est plus éclatante que la couleur rouge? Ça, il n'y a pas un bouquin qui va vous expliquer ça. Vous devez rentrer dans des éléments, comprendre la question. Ça veut dire qu'est-ce que c'est éclatante et qu'est-ce que. On rentre dans des éléments qu'il faut maîtriser pour voir. Donc il faut avoir une capacité de déduire des textes, des éléments de compréhension. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors là, je peux vous assurer que c'est un don divin. C'est un don de Dieu. Pour vous donner un exemple, l'imam Shafi'i qui lui était, subhanallah, c'était un don de Dieu, il avait une capacité dans ça. À partir d'un petit hadith qui n'a aucune importance juridiquement. En fait, le prophète passait, il a vu un petit enfant qui élevait un oiseau, et l'oiseau est mort, et l'enfant était en train de pleurer parce que son oiseau est mort. Donc il passe, il lui caresse la tête pour le consoler. Il lui dit, ne crains rien, Dieu te le remplacera au mieux. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire comme texte juridique de. Bon, franchement. Lui, il en a tiré 99 lois juridiques qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir juger certains cas. Une des lois, par exemple, qui est très très importante, c'est qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans le malheur sans le consoler en étant à côté de lui. C'est une obligation de la loi, de la foi. On doit, par exemple, sur ce principe-là, on peut parler de Haïti. Donc c'est une obligation, il en a fait une obligation tirée de ce hadith. L'obligation aussi de s'occuper des enfants qui sont dans le malheur, plus particulièrement en règle générale. La deuxième chose, une autre règle, c'est qu'on a, par exemple, le musulman a le droit d'élever des oiseaux, et que ce n'est pas de la maltraitance envers les oiseaux que d'en élever dans le but, et ainsi de suite. Et il dit à la fin que, en fait, il s'est arrêté à 99 par respect pour les noms de Dieu, mais il aurait pu aller beaucoup plus loin. Un autre imam, Ibn al-Arabi, Ahmed Ibn al-Arabi, pas le Cheikh al-Akbar, lui, il a pris les 8 versets qui concernent qui sont dans Sourate al-Kahf sur Moïse, avec le Khidr. Donc c'est des versets coraniques où Moïse va rencontrer quelqu'un qui est savant et il le suit et. Il se passe, bon, la première fois, il monte dans une barque et arrive de l'autre. Donc les gens le font traverser une rivière et quand il arrive de l'autre côté, il perce le bateau, il le casse. Alors Moïse, il est effaré, comme on va lui dire, mais il t'en fait traverser gratuitement, tu leur casses leur bateau. La personne, en fait, lui a dit, tu me suis, mais tu me poses pas de questions. Donc il le suit, comme on va. Il passe dans un village, il voit un enfant, il le tue. Sans lui poser quoi que ce soit, un truc, donc il. Moïse, en tant que prophète, est effaré. En tant le premier était à la limite, bon, mais bon, c'est qu'un bateau, il a fait qu'un trou dedans. Le deuxième, un enfant, on tue un enfant comme ça, c'est horrible. Et après, ils arrivent dans un autre village vers le soir, et demande l'hospitalité aux gens du village, ils refusent. Donc ils vont s'asseoir au bord d'un mur pour passer la nuit. Et ce mur-là, il est en train de s'effondrer. Et ce monsieur-là, au lieu de dormir, se lève, commence à faire du mortier, il reconstruit le mur pendant toute la nuit. Il lui dit, mais ils t'ont rien, déjà, ils t'ont refusé l'hospitalité, tu leur reconstruis leur mur. Alors il lui dit, non, enfin, maintenant on arrête, tu ne me suis plus parce que tu ne peux pas comprendre ce que je fais. Et alors il lui explique le pourquoi des choses. Il lui dit, le bateau, en fait, je l'ai trouvé parce que après nous, allait passer un roi qui réquisitionnait tous les bateaux pour faire la guerre dans le transport. Et en faisant un trou, ben, il le rendait provisoirement inutilisable, donc il sauvait ces gens-là du fait qu'on leur réquisitionne leur bateau. Parce que, en passant, bon, un bateau qui est trouvé, le roi ne va pas réquisitionner. Et alors, ça c'est pour concernant le bateau. La deuxième chose, c'est concernant les enfants, l'enfant qu'il a tué. Il lui dit, cet enfant-là allait faire beaucoup de mal à ses parents quand il allait grandir. Et ces gens-là sont des gens très très pieux. Alors Dieu a voulu leur donner un enfant qui soit plus proche d'eux, plus câlin, qui s'occupe mieux d'eux. Donc il leur a repris cet enfant-là pour leur donner un meilleur. Donc on parle de... Là, si tout à l'heure on parlait d'une vision à court terme, parce qu'on peut imaginer que le gars a une vision de voir le roi qui passe après, mais là on parle d'une vision, parce que la mère n'est pas encore enceinte, elle n'a pas encore accouché, donc une vision très 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 lointaine, donc une révélation divine en fait. Et le mur, alors le mur c'est un peu plus compliqué, il dit sous le mur il y a un trésor qui a été caché par un père qui était un homme très pieux, pour subvenir aux besoins de ses enfants orphelins, et ils ne le découvriront que dans un temps plus lointain, parce que Dieu voudra qu'à ce moment-là, ils découvrent le trésor pour subvenir à leurs besoins. Donc, il lui explique ça. Et il conclut, il lui dit, mais je ne l'ai pas fait de ma propre volonté, ce n'est qu'un commandement divin. Donc, tout ce que j'ai fait là, ce n'est pas moi qui a décidé, c'est Dieu qui me l'a demandé de le faire. Donc, on peut, si vous voulez, voir des choses et trucs, on dit voilà la personne elle fait du mal, mais c'est un commandement divin donc c'est un truc spécifique. Ibn Arabi, il a tiré de ce texte-là 6800 règles. Je sais pas si vous imaginez, 6800 règles, c'est 15 volumes de 8 versets. Vous imaginez la capacité de ces individus. Donc ça nécessite énormément de. Et puis surtout, ça n'est. Un moufti, c'est quelqu'un qui travaille dans le calme. Ce n'est pas quelqu'un qui va dans l'urgence répondre. On travaille dans le calme, on essaie de réfléchir. Il faut très très longtemps pour élaborer une réponse. Et puis surtout que avec tous ces éléments-là, le moufti va à un moment dire oui. Et à un moment, il va dire non. Pourquoi? Parce que un élément a pu lui échapper. Pas parce que lui a changé. Un élément a pu lui échapper. Un élément a changé en cours de route. La compréhension des gens a changé. Je me rappelle que quand je suis arrivé aux États-Unis, et on m'avait posé la question concernant les cartes de crédit, les crédits cartes. Alors le principe, c'est un peu différent qu'en France. Hein, la carte bleue n'existe pas là-bas. Vous avez des cartes par société. C'est-à-dire que vous avez une carte qui vous permet d'acheter du pétrole, vous avez une carte qui vous permet de. Et vous ne pouvez pas aller avec la carte pour acheter le bénzine, aller acheter du pain. D'accord? Vous avez des cartes qui sont par secteur, que les entreprises, trucs. Et évidemment, ces cartes-là sont rémunérées, enfin, il faut les payer, machin comme ça. Et j'avais émis la fatwa que non. On ne peut pas considérer ces cartes-là comme étant de la monnaie. Une golden card, c'est-à-dire une carte, ce qu'on appellerait une carte bleue de nos jours, peut être considérée comme étant de l'argent. Parce que je donne une valeur. Je donne une carte qui permet de retirer une valeur. Mais ces cartes-là ne sont pas une valeur. Pourquoi? Parce qu'avec une carte de gasoil, je ne peux pas aller acheter du pain, je ne peux pas payer mon hôtel. Donc ce n'est pas une valeur. Elle n'a de valeur que dans une entreprise. Et cette entreprise-là prend un bénéfice sur l'utilisation de la carte. En fait, en quelque part, c'est de l'intérêt. C'est-à-dire que si vous achetez pour 100 dollars, vous allez payer à la fin du mois 108 dollars. D'accord? Donc il y a un élément d'intérêt qui. Donc j'avais dit non. Pour moi, ça ne pouvait pas être. Et quand je suis revenu en France et que j'ai découvert la carte bleue à la manière française, j'ai changé complètement d'avis. En disant non, la carte bleue peut être remplacée l'argent, à condition qu'il n'y ait pas un intérêt dessus, ce qui pratique certaines banques. C'est-à-dire que si vous payez votre carte bleue 30 euros par an, parce que 30 euros c'est le travail que qu'eux ils font en enregistrant le travail qu'ils font pour la gestion de votre compte, c'est normal, c'est connu d'avant, je sais que je vais payer 30 euros pour la gestion de mon compte d'avant. Mais si sur chaque opération ils prélèvent un taux, ça c'est autre chose. Vous comprenez? D'où le fait que je dis la carte bleue, elle est autorisée encore avec une restriction. La restriction est quoi? C'est qu'on vous retirez de l'argent à l'étranger. Toutes les banques quasiment vous prennent une commission sur l'argent que vous retirez à l'étranger. Donc c'est un intérêt. Et donc à ce moment-là, ça devient illicite. Vous voyez, donc on peut évoluer dans la fatwa parce que voilà. Et surtout dans tout ce qui est les choses modernes, c'est très 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 compliqué d'émettre une fatwa qui va rester stagnante. Donc ça nécessite, si vous voulez, une adaptation au cours du route, donc une fatwa d'aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain, et ainsi de suite. Donc, et pour ça, il faut savoir une capacité de déduction par rapport au truc qui est très grande. Le troisième élément, c'est ce que je viens de vous dire, est une parfaite connaissance de la situation de celui qui pose la question. On ne peut pas imaginer qu'on puisse répondre à une question à un individu qui je ne sais pas quelle est sa situation. Imaginez, voilà. Disons, quelqu'un téléphone par téléphone ou à la télé, un truc comme ça, et il dit à quelqu'un, je n'arrive pas à laver mes pieds convenablement chaque fois que je fais les ablutions. Alors il dit, mais est-ce que tu as essayé? Oui, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Donc tu dois apprendre, donc ta prière, elle est fausse. Ça, c'est la fatwa. Cet individu-là, il est peut-être handicapé. Mais le problème, il n'a pas dit. Et donc, la connaissance de la situation, ce n'est pas la même chose. Deuxième élément, c'est, par exemple, ici en France, par exemple, concernant les ablutions, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que j'ouvre un robinet, j'ai de l'eau. Dans le Sahara, ce n'est pas pareil. Dans le Sahara, on ne peut pas prendre une douche avec 100 litres d'eau. Où est-ce qu'on va trouver les 100 litres d'eau en plein Sahara? Il est évident qu'avec une bouteille d'eau comme celle-là, un litre et demi, c'est ça, une douche. Et donc, les conditions des ablutions ou du lavage, concernant une fatwa qui va être émise, quelqu'un qui est sahraoui, qui vit en plein désert, et celui qui vit ici, ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que là, il peut rester un quart d'heure sous la douche pour s'assurer que l'eau, il est passée partout. Mais celui qui n'a qu'un litre d'eau pour prendre un truc, c'est pas la même condition. C'est pas la même. Vous comprenez? Donc la connaissance de la situation, et puis surtout, quand on arrive dans une des situations où on est face à un interdit. Quelqu'un téléphone, il dit, voilà, j'ai mangé du porc. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si on ne comprend pas que dans l'endroit où il était, il n'avait pas d'autre choix que de manger du porc, sinon il allait mourir de faim, il est évident que ce n'est pas le même commandement que celui on lui a présenté sur un buffet et des repas et tout, et puis c'est lui qui a choisi la tranche de porc. Vous comprenez, la compréhension de la situation est très importante. Et puis après, c'est l'évolution de la situation. C'est ce que je vous ai dit avec la carte bleue. Donc il y a des éléments qui vont changer au cours du temps. On doit à chaque fois reprendre compte. La question ne doit pas rester stagnante. On doit se remettre en cause à chaque fois les éléments pour reprendre le particularisme de la situation. Et le dernier élément concernant le mufti, donc celui du truc, on doit avoir confiance en lui. Il est évident que si vous posez la question à quelqu'un, vous ne pouvez pas. Et puis surtout, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans ce que j'appelle moi la confiance. On doit avoir confiance en lui, c'est-à-dire on sait qu'il ne craint que Dieu. C'est-à-dire qu'il va pas, c'est pas quelqu'un qui va faciliter les choses. Il doit craindre Dieu. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va être il va être responsable de ce qu'il va dire devant Dieu. Et puis surtout, un autre élément, on va pas voir quelqu'un qu'on connaît qui est très rigide, qui ne facilite pas les choses quand on a besoin de facilité. Vous comprenez? Si vous savez que quelqu'un, il est complètement opposé à tout ce qui est crédit et tout ça, n'allez pas lui poser la question, est-ce que vous pouvez acheter votre maison à crédit et vous êtes dans la nécessité de... Donc il faut... Il est évident que le caractère de l'individu va rentrer en compte dans le fait de ce qu'il va émettre dans les fatwas. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte du caractère de l'individu. Mais on doit quand même garder le fait qu'il a... Alors, maintenant la base, enfin les caractères que doit avoir celui qui pose la question. On a vu celui qui répond. Maintenant celui qui pose la question, moi qui va poser la question, comme la première des choses, c'est la sincérité. Il est évident que si vous posez une question biaisée pour avoir la réponse que vous voulez, non, on ne peut pas dire que c'est une fatwa. Lui, même s'il vous dit que c'est autorisé, c'est pas autorisé. Comprenez, j'ai pas été sincère dans l'explication de ce que je dis. Pas, je me rappelle une fois quelqu'un qui me disait, est-ce que le jambon est, on peut manger le jambon? Je lui dis non. Il me dit, mais si c'est d'un petit cochon. Je dis non, on peut pas le manger. Il me dit, mais s'il a été nourri collé. Je dis non, mais s'il a été nourri au lait ou ce que vous voulez, c'est du cochon et cochon. Et celui qui cherche la facilité. Donc il faut faire. Donc si moi je trompe d'une certaine manière celui à qui je pose la question, évidemment on ne peut pas appeler la réponse une fatwa. Donc il faut être sincère. Et la deuxième des choses, c'est de ne pas chercher la facilité. C'est-à-dire, je vais poser une question à quelqu'un, il me dit non, je vais voir un autre, il me dit non, je vais encore, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me dit oui. Non. Non, il faut pas. On peut chercher la facilité, mais la facilité doit être exprimée dans la question. Vous comprenez? Imaginez par exemple, vous êtes face à quelqu'un, vous voulez acheter une maison, vous savez que cette personne-là n'est pas forcément, n'autorise pas le crédit, tout comme ça. En exprimant la peur de laisser vos enfants dans la rue si vous arrivez quoi que ce soit, il va en prendre compte. Vous comprenez? Il va prendre compte du fait que si j'achète pas une maison, si demain ma femme ne travaille pas, si demain je meurs, ils vont être à la rue, ils n'auront pas de ressources. Donc je veux m'assurer que ma descendance puisse au moins avoir un toit sur leur tête pour qu'ils puissent. Donc on peut exprimer ces choses-là, sincèrement et profondément, et ce n'est pas une recherche de la facilité, mais c'est une recherche de la justice. C'est-à-dire on essaye évidemment de trouver la solution. Alors de tous ces éléments, on peut dire que la fatwa, alors j'essaie de trouver une définition un peu pour que vous compreniez, c'est une réponse précise dans un cadre précis à une personne précise sur un objet bien précis. Donc, c'est une réponse précise. C'est-à-dire que la réponse doit être vraiment très méticuleuse dans la tête. Dans un cadre précis, c'est-à-dire dans une situation. C'est-à-dire que si moi, le moufti m'a donné l'autorisation d'aller acheter ma maison à crédit, je ne vais pas dire à mon copain, ouais, c'est bon, tu peux y aller. D'accord? Parce qu'il a jugé par rapport à ma situation, pas par rapport à sa situation à lui. C'est par exemple une chose qui est claire de nos jours, par exemple concernant les crédits, c'est que la maison de l'Efta européenne, donc qui comporte des savants qui mettent des fatwas sur ces choses-là, a autorisé l'achat de maisons à crédit en France, mais il l'a interdit dans les pays d'origine. Vous pouvez, en tant que par exemple résident tunisien ou algérien ou marocain, vous pouvez acheter votre maison à crédit ici, mais vous ne pouvez pas acheter votre maison à crédit en Tunisie, ou en Algérie, ou au Maroc, ou dans un autre pays arabe. Pourquoi? Parce que la situation des deux éléments n'est pas la même. Pourquoi? Parce que ici, si nous cumulons ce que vous payez comme loyer par mois, au bout de 20 ans, vous avez le prix de la maison au bout de 30 ans. Si vous le cumulez pendant 50, 60 ou 70 ans en Tunisie, vous n'aurez jamais le prix de maison. Et la nécessité n'est pas la même. S'il faut du chauffage, là-bas, il n'y en a pas. Donc, les éléments ne sont pas comparables, donc on ne peut pas ne peut pas comparer. Donc ils gardent l'interdiction dans le pays d'origine, mais pas dans les pays où ça présente. Donc la fatwa, elle est bien structurée, c'est un principe bien donné. Donc on a dit une réponse précise dans un cadre précis, donc à une personne précise, donc à cette personne-là, ça ne touche pas les autres. Voilà, on ne peut pas généraliser à tous les musulmans et tout, bien que des fois, ça peut se répandre quand les personnes sont dans la même situation, évidemment. On l'a dit, dans un cadre précis, voilà. D'accord. Alors maintenant, on va parler. Bon, voilà, la fatwa a été dit. On a posé la question. J'ai la truc. Est-ce que ça lève ma responsabilité devant Dieu? Quand je vais arriver devant Dieu, j'ai fait quelque chose. En fait, en règle générale, si vous posez une question, c'est ce qu'il faut comprendre dans une fatwa, c'est que vous ignorez la réponse. Donc vous n'avez pas la certitude que c'est licite. Vous n'êtes peut-être pas aussi non plus la certitude que c'est illicite. Vous êtes dans un moment où vous ne pouvez pas juger. Donc vous posez la question à quelqu'un. Est-ce que le fait qu'il me réponde lève ma responsabilité à moi? Non, pas du tout. Alors ça, c'est la plupart des gens qui disent « Ah oui, mais je suis ce que dit ça. » Non, ça ne lève pas la responsabilité des individus. Alors, quand j'avais dit une fois ça, les gens ont sauté dessus, presque lapidé, en me disant « Mais comment ça, un savant, il dit ?» Et puis dit « Non. » Pourquoi? Parce que comment expliquez-vous, par exemple, vous avez deux savants, un va vous dire « C'est interdit le crédit », l'autre va vous dire « C'est autorisé ». Comment choisir entre les deux? Forcément, je vais choisir ce qui me convient. Donc, il y a quelque part une responsabilité. Je dois garder la responsabilité, parce que l'islam est basé sur la responsabilisation des individus. L'islam est responsable. C'est-à-dire que quand je pose une question à un individu, je ne dois pas me contenter de sa propre réponse. Je dois d'abord, normalement, avant de lui poser, je dois prendre ses connaissances, ce qu'on a expliqué avant, savoir si la connaissance de la sunna, du livre, s'il est capable de tirer. Mais comment vous n'allez pas dire à quelqu'un « Donnez-moi tes diplômes » ou « Récite-moi le Coran pour savoir si tu le sais ou je vais te poser des questions ». Non, on ne peut pas dire des choses comme ça à quelqu'un. Donc, à une réponse bien donnée, on doit essayer, nous, de comprendre, enfin de chercher, s'il n'y a pas des choses d'autres qui disent le contraire. Donc, même quand je reçois une réponse, je dois essayer de comprendre s'il n'y a pas des éléments qui sont contraires. Et ma responsabilité, après, elle va rester entière. Donc, devant Dieu, je serai responsable. C'est-à-dire, si je dis à mon fils « ne fais pas la prière », il arrive devant Dieu, il dit « Ah, mon père, il m'a dit, fais pas la prière, tu m'as dit qu'il faut que j'obéisse à mon père, donc j'ai obéi. » Non, il sera puni, je serai puni. Vous comprenez bien la chose. Et la responsabilité du moufti, de celui, est complète. Donc, ça c'est un petit peu ce que je comprends pas souvent quand on attaque des gens. Ces gens-là qui mettent des grands savants, ils savent très bien qu'ils vont être jugés pour la moindre parole qu'ils ont dit. Ils ne jugent pas d'après la loi de David ou de Jésus ou de trucs, ils jugent d'après le Coran et la Sunna. Même s'il dit le contraire des autres, il est convaincu. Je veux dire, il amène pas les gens à l'erreur. Il est convaincu de la véracité. Il y croit. Je veux dire, il a ses preuves et tout, même si les autres sont contre lui, on peut pas dire non, celui-là il est trop dur ou celui-là il est trop. Il a ses preuves à lui, il sait qu'il va être jugé, du moment qu'il sait qu'il va être puni pour tout ce qu'il va dire, c'est quelqu'un de confiance. C'est ceux qui, je veux dire, qui se facilitent dans la fatwa, dire, on peut poser la question. La dernière fois, quelqu'un qui m'avait dit, il pose la question à un savant ici, et lui dit, est-ce que le crédit est autorisé? Oui. Non. Mais sur quoi? Quel élément? Non, c'est pas acheter une maison, ou une machine à laver, ou une Mercedes, c'est pas la même chose. Donc, il y a des choses, il sera responsable de ce qu'il a dit. Il sera. Donc, on peut pas dire qu'un moufti, quelqu'un qui est savant, c'est quelqu'un qui va répondre facilement. Bien sûr que ça existe. Il y a ceux qui veulent plaire. Et, bon, malheureusement. Et donc, pour conclure, alors comment on arrive par exemple à des différences entre des mouftis? Comment on peut arriver sur la même question à avoir des réponses différentes? Ben, la première des choses, c'est déjà l'interprétation des textes. Quand un texte, il est dit, il comporte des mots, comment on comprend ces mots-là? Il est évident que on peut pas tous comprendre les mots de la même manière, et donc forcément la compréhension des mots va donner une différence. Par exemple, je vous prends l'exemple de l'imam Chef, et quand dans la sourate, qui parle des ablutions, il dit le Coran, il dit vous devez refaire vos ablutions si vous revenez dans l'endroit de souillure, c'est-à-dire que si vous avez fait vos besoins, ou la mastomnissa, ou si vous avez eu des attouchements avec une femme. Alors, tout le monde, tous les musulmans traduisent le mot la mastom, c'est, si vous voulez, c'est une manière un peu, je dirais, polie ou enfin pudique que Dieu utilise pour désigner l'acte sexuel avec une femme. Donc, si vous avez des rapports sexuels avec une femme, vous devez enfin, faire un aveu. Et même Chef, il dit non, le mot désigne le fait de toucher. C'est de toucher la peau, tout simplement. Il dit, si vous touchez la peau, vous devez. Mais personne n'a jamais dit à l'imam Shafi'i qu'il a tort. Bon, les autres sont tout à fait d'accord. Mais pourquoi? Parce que le mot désigne ça. Et le Coran dit, si vous avez touché une femme, le sens apparent du mot veut dire toucher. Est-ce qu'on va dire à quelqu'un, non, mais ce mot toucher ne veut pas dire toucher? Il va dire, mais vous, tu sors ça d'où? Comprenez? Mais ça, c'est un élément. Mais est-ce qu'elle emmène un interdit? Non. Est-ce qu'elle va emmener un interdit? La seule chose qu'elle va emmener, c'est que l'individu va refaire ses ablutions. Donc, l'autre va dire non, mais tu es encore en ablution, et l'autre dit non, refais-la. Ça ne change pas, ça n'amène pas à un interdit. Comprenez? Quand l'interprétation va rendre quelque chose licite et l'autre illicite, alors on comprend très bien que là, on doit avoir des discussions sérieuses, parce que si moi je comprends par le texte que c'est autorisé et toi tu comprends que c'est interdit, là il y a une différence. Mais quand ça n'amène pas à une interdiction, à une autorisation, là, à l'interprétation des textes, le mot peut être interprété dans plusieurs sens. Là, surtout les mots arabes, hein, vous savez que les mots arabes, ils ont des dérives. Donc on peut tout comprendre. Ça, c'est concernant le texte. Et puis aussi, il y a les circonstances du texte. Est-ce que le texte coranique est descendu dans un sens général ou dans un sens particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'il touche? Il parle d'un cas très particulier qui se limite à ce cas particulier ou il est général? Et ainsi de suite. Enfin, il y a plusieurs manières d'interpréter les textes. La deuxième des éléments, c'est concernant le hadith. Est-ce que le hadith est pour moi vrai ou pas? Et là, c'est que le hadith, on ne parle pas du contenu du hadith. On ne parle pas de ce qu'a dit le prophète, si c'est vrai ou pas. Ça, c'est pas le sujet. On parle de la chaîne de transmission, les personnes qui ont transmis. Est-ce que moi, j'ai confiance en eux ou pas? Évidemment qu'on ne peut pas tous avoir tous les gens qui vont être d'accord sur tous les gens qui ont transmis le hadith en disant, celui-là, moi j'ai confiance, l'autre dit, ah ben, moi j'ai pas confiance en lui. Mais ce n'est pas forcément pour diminuer de sa valeur. Par exemple, on avait un grand imam, qui est un très, très grand rapporteur du hadith, et qui a été abandonné par exemple par le Bukhari Muslim, les deux grands rapporteurs du truc. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui rapportait beaucoup de hadith, qui était très vérace, mais vers la fin de sa vie, il a vécu très vieux, il est mort, il devait avoir 100 ans ou 102 ans. Vers la fin de sa vie, il perdait un peu la boule, il n'avait plus sa mémoire. Donc il confondait les noms, il confondait les hadiths et tout. Donc Muslim et Bukhari, qui sont venus longtemps après lui, ils ont dit, nous, ce hadith-là, bien qu'il est rapporté par, on a confiance en lui, mais je ne sais pas s'il l'a rapporté au moment où il avait toute sa tête ou après. Donc comme je n'ai pas la certitude, je prends une précaution, je le mets de côté. Et des fois, ils ont rapporté le hadith, pourquoi? Parce qu'ils ont eu le même hadith rapporté par d'autres voix auxquelles peut-être ils peuvent croire, et en réunissant 20-30 différentes voix, ils se sont dit les 20-30, bon, il y en a que je suis sûr, mais ça globalise le fait que plus ou moins ce hadith il est vrai. Et puis surtout que les personnes, il y a des gens qui ont, comme par exemple le Bukhari Muslim, ont cherché à poser des règles, l'accepte de de la transmission du hadith et d'autres ne l'ont pas posé. Par exemple, si je vous dis Napoléon Bonaparte m'a dit, vous ne pouvez pas me croire, parce qu'entre Napoléon et moi, il y a quand même quelques années. Eh ben, il y a des gens qui vont prendre ce que je vais dire pour vrai. Pourquoi ? Parce que ils savent que je ne suis pas menteur. Et donc, ils savent très bien que il y a peut-être une chaîne à laquelle moi je crois, parce que je n'ai jamais menti. Donc, je n'ai pas pu rapporter quelque chose sur Napoléon si je n'avais pas la certitude. Ils ont plus confiance en moi que dans la chaîne de transmission. Ouais. Donc, ainsi de suite. Donc, on a des éléments où, par exemple, des fois, on a des hadiths, on dit, un compagnon dit, à telle bataille, j'ai entendu le prophète dire. Et on sait très bien, par sa propre parole à lui, qu'il n'y était pas à cette bataille-là. Donc, comment il a pu entendre le prophète ? Il a forcément entendu à partir de quelqu'un d'autre. Donc, forcément, je veux dire, là, on peut pas dire que... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a... Les gens, ils vont, par rapport au même hadith, donc discuter des chaînes de transmission, et quelqu'un va dire ce hadith, moi je le prends, et d'autres, ils disent non, ce hadith, je l'abandonne. Et on ne peut pas condamner un savant, où on lui dit, comme par exemple, de nos jours, quand on discute d'un hadith, les gens disent, mais comment tu peux, c'est un hadith qui a été rapporté, mais qui c'est qui est ? Tu dis rapporté par qui ? Tu le connais, toi ? Je veux dire, on ne peut pas jongler comme ça avec... On parle de la loi de Dieu. La loi de Dieu, on doit avoir la paix du cœur, on doit avoir la certitude que on n'a pas de soucis concernant ça. Pour vous donner un exemple, l'imam Abu Hanif, le grand imam de l'islam, fondateur de Hanafiya, sur un principe des ablutions, quand on part en voyage, par le manque d'eau et la contrainte du voyage, ce n'est pas les voyages en TGV de nos jours et en avion, donc il y a une facilité de ne pas laver les pieds tout le temps, c'est-à-dire d'essuyer sur les chaussures. Et Abu Hanifa, pendant toute sa vie, chaque fois qu'on lui présente un hadith, il dit, un tel, pour moi, je ne peux pas le croire. Un tel, je n'ai pas confiance en lui. Un tel, c'est... Il a toujours refusé tous les hadiths qui lui ont été rapportés concernant ce qu'on appelle l'essuyage du pied, le luxage du pied, des chaussures. Et toute sa vie, il n'a jamais accepté aucun hadith. Et donc, il disait, le luxage sur les pieds est interdit. Si vous faites la luxure sur les pieds, votre ablution est fausse, votre prière n'est pas acceptée. Il faut laver les pieds. Pendant toute sa vie. Et 3 jours avant de mourir, un de ses élèves lui rapporte un hadith auquel il a adhéré. Donc, pendant les 3 derniers jours de sa vie, il a réuni tous ses élèves, il a fait toutes ses ablutions devant eux pour qu'ils attestent après lui que l'élixir du pied fait partie de la sunna du prophète. Vous voyez l'importance qu'il donne le hadith. C'est pas, on ne prend pas, on dit ouais, c'est non, mais je ne crois pas. L'autre, il a dit c'est un hadith faible, je le jette à temps. On ne peut pas juger les choses comme ça. Donc, on parle de la loi de Dieu, on ne va pas prendre les trucs à la légère. Et par exemple, l'imam Malik aussi avait refusé des hadiths, et un hadith qui a été rapporté par un de ses élèves, il l'a pris. Alors, on lui dit, mais je ne comprends pas. Il avait changé d'avis en 2 jours. Et ses élèves ne comprenaient pas. Donc le cours après, il a repris le même cours en changeant d'avis. On lui a dit, mais je ne comprends pas, tu n'étais pas d'accord. Alors il dit, mon élève, un tel m'a dit qu'un tel lui a dit qu'un tel lui a dit, un tel, jusqu'en remontant jusqu'au prophète, que le prophète a fait ceci. Donc on ne tient pas compte, c'est pas parce que c'est mon élève, je vais pas prendre l'avis de mon élève. Non, non, c'est une certitude, il faut avoir la truc, il faut être... avoir le cœur en paix devant un truc. On ne va pas prendre un truc dans lequel on doute. Et le troisième élément, évidemment, c'est l'étendue de l'interdiction. C'est-à-dire que quand on est face à une interdiction, cette interdiction va jusqu'où ? Je dis par exemple pour l'histoire du porc, le porc est interdit, mais c'est le Coran qui le dit, mais si vous êtes obligé d'en manger sans excès, par nécessité, c'est-à-dire vous êtes au bord de la mort, Dieu ne va pas vous. Mais par contre, ce n'est pas une règle qui s'applique au vin. Donc l'interdiction, on peut pas qu'on boire du vin et dire ah mais j'allais mourir de soif. Non, on peut passer 3-4 jours sans boire une goutte d'eau et on ne meurt pas de soif. D'accord? Donc l'étendue de l'interdiction va aller jusqu'où? Donc on peut. Et aussi ce qu'on appelle quand vous êtes dans une obligation extrême, tous les interdits sont levés. Pourquoi? Parce que l'interdit, c'est un commandement divin, et que la protection de l'homme, de sa vie, elle est supérieure à un ordre divin. Parce que tous les ordres divins sont venus protéger l'homme. C'est pas lui imposer. Ils sont venus le protéger. Donc s'il risque sa vie, et forcément les interdits sont levés. Et ça, le plus grand exemple, c'est un verset coranique. C'est le compagnon qui était sous la torture, on le torturait et tout, pour qu'il renie Dieu. Donc il a fini par renier Dieu, parce que sous la torture, on n'a pas tous la même capacité. Et bon, il a renié Dieu, il a maudit le prophète, sa famille et tout. Ils l'ont relâché, donc il est parti en pleurant et tout. Chez le prophète, on lui dit, ils m'ont obligé à te renier. Il lui a dit, comment tu vois ton cœur? C'est-à-dire, au fond de toi, est-ce que tu as renié Dieu? Dieu, non, mon cœur, il est pur. Il dit, s'ils reviennent, reviens. C'est-à-dire que s'ils reviennent encore et qu'ils tentent de te torturer, renie Dieu, le prophète et tout. Pourquoi? Parce que la protection de l'homme est plus importante. Si son cœur il est pur, il tient à Dieu, les paroles sont obtenues sous la contrainte. Ce qui est obtenu sur la contrainte n'a aucune valeur dans l'islam. Donc c'est très important. Et aussi, par exemple, l'imam Melk a été torturé parce qu'il émettait une fatwa que celui qui est contraint au divorce n'est pas divorcé. Alors bon, ça a été interprété politiquement que quand on obtient quelque chose par la force, elle ne compte pas, ce qui est vrai en fait, dans le sens contraire, parce que le roi qui venait avait fait un putsch et a obligé les gens à accepter le reconnaître comme roi sous l'obligation, quoi. Et donc le fait que Melk disait que le divorcer sous la contrainte n'est pas divorcer, c'est comme si on disait l'obtention de l'assentiment du prince sous la contrainte n'est pas valable. Donc il a été torturé pour ça et il a perdu l'usage d'un bras, pour vous dire à quel point. Donc il est très important de savoir. Alors la règle générale, c'est que si on arrive à une contrainte extrême, on doit protéger sa vie avant les interdictions. Certains savants, et la plupart, ce qui est compréhensible, disent que ça concerne la majorité des gens, sauf les savants. Pourquoi les savants? Parce que c'est eux qui sont le flambeau de la légende. Si eux se mettent à renier Dieu en public, comment on va faire les gens? Il y a un moment où on est symbolique, c'est-à-dire que c'est la responsabilité. J'ai ma responsabilité, c'est... vous voyez, j'ai ma responsabilité d'éduquer mes enfants, mais si je, en tant qu'éducateur de mes enfants, je leur montre le mauvais exemple, quel est mon rôle? Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Et puis, la raison des différences aussi, c'est les instruments qui sont utilisés pour obtenir le fatwa. On vous a dit, c'est le Coran, la sunna, les jmer, le consensus, le truc. Il est évident que si les personnes n'utilisent pas les mêmes instruments, pour vous donner un exemple, c'est que le consensus n'existe pas chez les chiites. Les chiites n'ont pas de consensus. Ils ne reconnaissent pas le consensus comme étant un élément de jurisprudence. Pourquoi? Ils disent il est impossible d'avoir eu, à une époque bien donnée, l'avis de tous les savants. C'est pas possible. Donc physiquement, c'est pas possible. Comment on peut l'avoir? D'accord? Donc ils ne le reconnaissent pas. Et eux, ils ont par exemple certains principes de dire... c'est l'ouala, c'est-à-dire qu'ils ont les chrétiens appellent un directeur de conscience, c'est-à-dire qu'en fait ils ont un imam qu'ils suivent, un imam vivant. Donc en fait ce qu'il dit lui, c'est ce que je crois moi. Alors que dans les sunnites, nous on n'a pas ce qu'on appelle l'imitation du savant, on l'a pas, nous on a l'obligation de raisonner. Donc on a plusieurs éléments qui rentrent en cours de route pour faire que les éléments de la fatwa ne seront pas, parce que si moi je prends que le Coran et la Sunna, évident, et par exemple d'autres savants, ils disent qiyas, c'est-à-dire le fait de mesurer une chose sur une autre, c'est un élément. Eux, ils disent non, dans l'islam, c'est interdit. Ils disent non, on ne peut pas. Le qiyas, c'est pas un élément qui a été qui est adopté par les musulmans, parce que le seul qui a fait ça, c'est le diable. Il a dit, je suis meilleur que l'humain, parce que moi, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé de terre. Donc, c'est le seul qui a comparé deux éléments, mais pour s'affronter à Dieu, en disant, je suis meilleur que lui. Donc, on dit la comparaison entre deux éléments, un truc, alors qu'on sait très bien que sans comparaison, on ne peut pas juger de nos jours, parce que comment voulez-vous trouver la réponse islamique à l'implantation des ovules, à la transplantation des trucs, ou aux lois financières, ou tout ce qui est nouveau, toute la modernité. Il faut bien qu'on mesure les éléments les uns aux autres pour pouvoir avoir un avis général. Voilà ce qui concerne la fatwa, mais je pense qu'en cours de route, nous y reviendrons, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وصلى الله وسلم على نبينا محمد